Il le circoncit à l'âge de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans à la naissance d'Isaac. Sarah déclara : Dieu m'a fait rire de joie. Tous ceux qui entendront parler d'Isaac riront avec moi. Et elle ajouta : Qui aurait pu dire à Abraham qu'un jour Sarah allaiterait des enfants ? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit. Quand Sarah cessa de l'allaiter, Abraham fit un grand banquet. Un jour, Ismaël, l'enfant que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham, était en train de jouer. Sarah le vit et dit à Abraham : « Chasse cet esclave et son fils. Celui-ci ne doit pas hériter avec mon fils Isaac. » Ces paroles firent beaucoup de peine à Abraham, parce qu'Ismaël était son fils. Mais Dieu lui dit : « Ne sois pas contrarié au sujet de ta servante et de son enfant. Accepte de faire tout ce que Sarah t'a dit. En effet, c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Quant au fils de ta servante, je ferai aussi naître de lui un peuple, car il est ton fils. » Tout le lendemain matin, Abraham prit du pain et une outre remplie d'eau, les donna à Agar, lui mit l'enfant sur le dos et la renvoya. Elle erra dans le désert de Beersheba. Quand il n'y eut plus d'eau dans l'outre, elle abandonna l'enfant sous un arbuste. Puis elle s'assit à l'écart, à la distance d'un jet de pierre. Car elle se disait : Je ne veux pas voir mourir mon enfant. Elle s'assit donc à l'écart et elle se mit à pleurer de façon bruyante. Dieu entendit la voix de l'enfant et des cieux, l'ange de Dieu appela Agar. « Qu'as-tu, Agar ? » lui demanda-t-il. « N'aie pas peur, Dieu a entendu la voix de l'enfant là-bas. Debout, prends ton fils et tiens-le d'une main ferme, car je ferai naître de lui un grand peuple. » Dieu ouvrit les yeux d'Agar et elle aperçut un puits. Elle y remplit l'outre et donna à boire à son fils. Protégé par Dieu, l'enfant grandit. Il habita dans le désert de Paran et devint un habile tireur à l'arc. Sa mère lui fit épouser une Égyptienne. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vais inviter Rosemélène à venir me rejoindre. Qui connaît Rosemélène ? Ah, d'accord, 2 personnes. Alors, Rosemélène est une personne que j'ai appris à connaître quand elle faisait ses études de théologie à Collonges, qu'elle vient de finir il y a une année, hein, c'est ça ? Et j'ai découvert une personne, alors je ne vais pas faire trop d'éloges, j'en aurais beaucoup à dire, mais je ne veux pas la rendre mal à l'aise, mais une personne remplie d'une foi énorme, une femme de foi. Elle a, de la chaise à ici, il n'y a pas grand-chose hein, de parcours à faire. Mais elle nous vient très loin et elle a vraiment bourlingué pour venir jusqu'à Collonges. Donc de Haïti, elle est allée ensuite en Martinique, à Trinidad, où est-ce qu'elle a fait des études de théologie, qu'elle est venue finir à Collonges. Et en apprenant à la connaître, c'est vrai que je me suis dit, mais ce serait chouette qu'elle puisse une fois apporter un message ici dans notre église. Et je la remercie infiniment d'avoir accepté et je me réjouis infiniment de ce qu'elle va nous apporter. Merci Rosemélène.
Merci à toi.
Que Dieu soit vraiment avec toi.
Merci. Merci Alain pour ces mots d'introduction. Je ne sais pas si on m'entend. C'est bon ? Oui, je m'entends. Alors merci Alain, c'était un petit peu trop d'éloges sans doute. Effectivement, j'ai un parcours assez particulier. Il a bien fait de le résumer parce que j'ai énormément bougé avec l'aide de Dieu. Et c'est un plaisir pour moi ce matin de pouvoir partager avec vous ce qui m'a touché dans la parole de Dieu cette semaine. Alors lorsque le pasteur Nicolas et notamment Alain m'ont invité à venir prêcher, alors j'avais déjà bien en tête un sermon. Hein, j'avais déjà commencé à réfléchir. Et puis, entre-temps, Alain, à la dernière minute pratiquement, m'a dit, eh bien, ce sera la journée internationale des femmes. Bon, OK. Donc, il va falloir repenser les choses. Et là, Dieu m'a inspiré un personnage que je souhaite évoquer avec vous ce matin. Un personnage qui me parle énormément, ne serait-ce par exemple que de par mon expérience, mon périple de vie. Et puis, j'espère qu'en ce matin, qu'il vous aidera également à vous retrouver et à en tirer des leçons. D'accord ? Alors, effectivement, je viens d'Haïti. J'ai rejoint avec ma mère, mon petit frère, mon père qui était déjà installé en Martinique. J'y ai grandi à partir de l'âge de 3 ans jusqu'à pratiquement 25 ans. Ensuite, je suis arrivée en France après avoir étudié dans le social pour travailler. Et là, Dieu m'a appelée au ministère. Je suis repartie vers la Caraïbe. J'ai étudié la théologie à Trinidad. D'abord l'anglais, ensuite la théologie, parce qu'on n'était pas très bons amis à l'école. Et puis finalement, après cette licence à Trinidad de théologie, je suis arrivée ici à Collonges. Là encore, déracinée dans un autre contexte. Et j'apprends à servir Dieu autrement. Donc voilà, je vous invite donc à considérer avec moi cette thématique d'esclave à matriarche. Alors c'est ainsi que j'ai surnommé ce petit entretien que j'avais avec vous ce matin. Femme, Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta destinée. Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta destinée. Bien sûr, aujourd'hui, c'est la journée de la femme, mais les hommes ne sont pas en reste, je vous rassure. Vous aussi, vous trouverez de quoi y faire. Je vous invite à incliner de vos têtes pour la prière. Tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et d'Agar. Nous invoquons ton saint et grand nom ce matin. Remplis-nous de ton Esprit Saint et conduis-nous dans toute ta vérité, au nom de Jésus. Amen. Alors brièvement, je vais vous faire un petit plan de... Voilà, ma présentation. Dans un premier temps, nous allons considérer Agar, personnage secondaire des récits bibliques. Ensuite, nous allons voir trois points de son histoire. Son histoire est tellement riche que nous n'allons pas prendre le temps de décrypter étape après étape tous les événements de sa vie. En revanche, nous allons voir la considérer en tant qu'étrangère, donc une étrangère du nom d'Agar, ma première partie, en tant qu'esclave, une esclave désignée Agar, en tant que femme, une femme nommée Agar. Et puis, la conclusion est mienne. Je l'ai appelée l'évangile selon Agar. Est-ce que tout le monde est avec moi ce matin? Très, très bien. Alors, allons-y. Alors, si vous voyez que je bois un peu de temps en temps, c'est parce que je suis stressée, ça fait partie du jeu. Alors, effectivement, s'il y a des personnes bibliques très connues, valorisées et appréciées pour leur grandeur, du fait de leur relation avec Dieu, leur noblesse de caractère ou encore de leurs exploits, d'autres sont considérées comme des personnages secondaires, voire tertiaires, de bien moindre importance. Ils sont parfois sans nom et sont souvent évoqués par leur provenance. Un exemple bien simple. La femme syro-phénicienne, tiens donc. Ou bien par leur condition de pécheresse, la femme adultère, tiens. Ou même par leur défaut ou faiblesse physique, la femme à la perte de sang. Intéressant. On est loin, bien loin des déclarations du genre « David, l'homme selon le cœur de Dieu » ou bien « Abraham, le père de la foi » ou encore « Job », un homme intègre et droit. On serait tenté de penser que la religion de la Bible n'existe que pour les grands, les géants spirituels, ceux à la notoriété évidente. Notamment lorsqu'on considère les cas, par exemple, de Caïn et Abel, Abel, vapeur, souffle, ou ceux de Loc et de Lot, on le retiendra, hein, Lot, hein, pour sa relation particulière avec ses filles. Et puis, d'autres n'apparaissent dans le texte biblique que figurant dans une lignée généalogique. Nous pourrions donc nous demander si le Dieu de la Bible s'intéresse vraiment aux personnes normales, comme moi, comme vous sans doute, ou même désavantagées par la vie. Toutefois, et ce qui m'intéresse avec le texte biblique, c'est qu'une lecture attentive du récit nous permet de comprendre au fur et à mesure de notre cheminement avec Dieu que tous ces grands personnages étaient des hommes et des femmes empreintes en réalité de fragilité humaine, voire de normalité basique, a priori dénuée d'intérêt, dans laquelle Dieu et uniquement Dieu vint accomplir une œuvre spécifique. Et c'est cette intervention divine qui leur donna une plus-value, puis une résonance à la fois universelle et éternelle. Vous savez, c'est en cela que je vous invite à considérer le récit de Genèse 16. Effectivement, j'ai donné à Alain la conclusion finalement de l'histoire d'Agar pour vous pousser à rentrer en profondeur dans son histoire. D'abord, elle est plus ou moins brièvement mentionnée dans le chapitre 12, lorsqu'on apprend que Sarah reçoit de Pharaon des esclaves. Donc on devine qu'elle fait partie de ce groupe de 100 noms. Ensuite, elle apparaît dans Genèse 16, Genèse 21, Genèse 25. Je laisse ces passages à votre appréciation pour plus de renforcement spirituel. Alors, effectivement, nous allons aborder son histoire, cette histoire qui va nous permettre d'extraire des vérités théologiques, c'est-à-dire qui nous permettront de comprendre Dieu un peu davantage, un peu mieux, des vérités anthropologiques qui nous permettront de nous comprendre en tant qu'êtres humains dans notre périple sur Terre. Et puis finalement, des vérités pratiques, parce que nous sommes Église et quelquefois, nous oublions notre rôle premier qui est d'attirer à Dieu. Alors tout d'abord, première partie, une étrangère du nom d'Agar. Peut-être que ça ne fait aucune résonance en vous, ça ne vous parle pas, mais le prénom dans la culture hébraïque a une valeur primordiale. Alors moi, je m'appelle Rose Mélène. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous imaginez ce que ça pourrait vouloir dire ? Rose Mélène. Là, comme ça, je vous pose la question, n'hésitez pas à interagir avec moi, je ne mange personne, et surtout pas le sabbat matin. Alors, Rose Mélène, selon vous ? Une rose, très bien, c'est déjà un bon début. Ensuite, comment ? Oh, c'est joli ça. Merci, je me sens spéciale. Qui d'autre ? Bon, alors je vais réduire sur le temps de suspense. Rose Mélène signifie rose noire de mélanine de Mélanios. Je suis une rose noire. Alors ma mère, elle était très créatrice, très inventive. Elle a décidé qu'elle m'appelait le Ray Rose Noire. Et chose intéressante, c'est que mon prénom était donné aux esclaves noirs chez les Grecs, qui étaient très belles. Alors je dis ça entre parenthèses. Alors effectivement, le nom d'Agar, le nom dans la culture hébraïque, avait une valeur primordiale. Nommé. C'était à la fois dominé, on se rappelle, hein, Adam qui nomme les animaux, mais également donner une singularité, inscrire dans une généalogie, offrir une origine et subséquemment construire une identité pour produire une destinée. On n'appelait pas son enfant n'importe comment juste parce qu'on avait vu une série à la télé ou sur Netflix. On recherchait une destinée et quelquefois on donnait à son enfant un nom en fonction de sa propre expérience de vie, son histoire. Ainsi, Agar est présentée comme étant une Égyptienne dans le récit biblique. Pourtant, son nom intrigue les théologiens. Pourquoi ? Eh bien, son nom n'est pas d'origine égyptienne, mais d'origine sémitique. Il signifie fuite, émigration, immigrée, fugitive. Il proviendrait de la racine sémitique du verbe s'enfuir, fuir, quitter, s'évader, s'échapper, éviter. Agar serait-elle donc la fille de deux émigrants quittant précipitamment un pays qui nous est inconnu, pour des raisons politiques ou économiques également inconnues, afin de s'installer en Égypte, une terre étrangère que l'on souhaiterait d'accueil. Le narrateur n'en donne aucune précision. Rien n'est dit sur sa généalogie, mais elle semble porter intrinsèquement, nominalement, la trace des aspirations de ses parents ou de l'histoire de ses parents. Et par la suite, on le verra, elle passera sa vie à quitter dans la fuite ou dans le rejet. Une autre gorgée d'eau. Agar serait donc, serait-ce, posons-nous la question, donc un prénom prophétique d'une destinée d'errance liée à la fuite, à la séparation, ou plutôt un prénom témoignant du récit de ses propres origines, celle d'une naissance entre deux fuites de parents expatriés ou plutôt réfugiés, nous n'en savons rien. Agar est tout simplement comme ces 100 millions de personnes dans le monde qui, selon la déclaration de Filippo Grandi, le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, qui paraît dans l'article de l'ONU Info du 27 mai 2022, eh bien, elle serait parmi, comme ces 100 millions du moins de personnes qui sont contraintes de fuir leur foyer, se trouvent déracinées à cause de conflits politiques destructeurs, de violences et de persécutions prolongées, de bankrupts économiques et de dérèglements climatiques. Si nous pensions que seule l'Ukraine était concernée par cette tragédie, eh bien, Filippo Grandi nous rappelle que l'Éthiopie, le Burkina Faso, le Myanmar, le Nigeria, l'Afghanistan, la République démocratique du Congo, Haïti et j'en passe, d'autres pays, beaucoup d'autres pays sont concernés. Donc non seulement son nom suggère qu'elle est née entre deux fuites, suggère, j'insiste, j'ai pas dit, n'allez pas dire que Rosemélène a apporté une nouvelle théologie, néanmoins on imagine les choses, son chemin de vie semble la conduire inévitablement et perpétuellement, inlassablement, dans une échappée, dans une évasion désobligeante. Les psychologues parleront de parting, de séparation imposée. S'il a suggéré à Adam, on se rappelle, et toute l'humanité à travers lui, de quitter père, mère, pour s'attacher afin de devenir, eh bien, Agar ne quitte pas pour s'attacher, et peut-être encore moins pour devenir. Elle quitte pour faire face à la solitude du désert. S'il est demandé à Abraham, va vers toi, quitte ta patrie et deviens un meilleur toi, ce toi existentiel. À Agar, on ne lui demande pas son avis. On la chasse dans le désert avec, tenez-vous bien, une gourde d'eau et un pain. La question que j'ai envie de vous poser ce matin avant de passer à la deuxième partie. Et toi, que quittes-tu? Pourquoi quittes-tu? Est-ce une origine? Est-ce un pays en guerre, en difficulté? Est-ce des circonstances de ta vie? Est-ce les choix de ceux qui t'entourent qui te sont imposés? Pourquoi tu fuis vers cet anéantissement du moi intérieur? Pourquoi? Malgré cette injustice, le divin semble confirmer la nécessité de la séparation. Il va approuver la décision d'Agar, de Sarai du moins, et convaincre Abraham de la laisser partir. Est-ce que l'auteur ne serait pas en train de suggérer que quelquefois, le quitter, bien que douloureux, est nécessaire afin de devenir? Est-ce que pour Dieu, quitter ce partenaire toxique, ce parent étouffant et castrateur, cet ami dépendant et destructeur, n'est-ce pas pour devenir? Est-ce que quitter n'ouvre pas en réalité des portes à d'autres horizons? Pierre va dire dans 1 Pierre 2, verset 11, « Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Quitter, c'est être en mouvement. En marche, comme le tabernacle qui était perpétuellement en marche. Quitter, c'est suivre parfois Dieu là où il nous conduit. Quitter, c'est aller vers soi, vers sa destinée. Deuxième élément, Agar est une esclave. Il semblerait que l'assimilation à la patrie égyptienne n'était pas de bon aloi parce que Agar ne se retrouve plus. Elle n'est ni lectrice de sa vie, ni auteur de son existence. Elle est la possession d'un pharaon qui la marchande pour les beaux yeux de la belle Sarai, la possession de Sarai qui fera d'elle un... Nous verrons tout à l'heure. Elle est déshumanisée du moins. On lui demande même de ne pas laisser transparaître ses émotions, de ne pas réagir. Parce qu'on se souvient, elle rit, semble-t-il. On la maltraite. Son fils rit, probablement, on la chasse. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est que ses persécuteurs ne sont rien d'autre que Sarai. Et éventuellement Abraham. Qu'est-ce que cela pourrait vouloir dire? Si Paul estime que Abraham a eu recours à cette jeune femme avec un reste de bon sens, cette jeune femme est pourtant celle qui a souffert, qui a fui, qui a crié à l'Éternel. La question qui me taraude est la suivante. Pourquoi des enfants de Dieu sont-ils parfois ceux qui persécutent? Pourquoi des pères de la foi sont parfois ceux qui chassent de la communauté chrétienne? Pourquoi l'Église qui a vocation ou pour vocation d'accueillir, de prendre soin, d'aimer, de chérir, est parfois celle, l'objet par lequel beaucoup, beaucoup, beaucoup souffrent. Alors j'ai envie de croire que ce n'est pas votre cas ici à l'église de Genève. Je vois des visages tellement souriants, bienveillants. J'ai envie d'imaginer que vous êtes de belles personnes. Mais certaines fois, certaines personnes souffrent et partent de l'église à cause de ce qu'ils subissent. Ça me rappelle d'ailleurs l'histoire d'une femme dans mon église qui était tellement active, tellement dévouée pour la cause du Seigneur. Et cette femme était mariée à un homme tellement charmant au demeurant. Un homme réputé, renommé, un bon ancien d'église, un homme tellement actif dans la mission. Ne voilà-t-il pas que cette femme un jour se rapproche de son pasteur, « Pasteur, que dois-je faire? Mon mari me bat. » Le pasteur, qui est conscient du poids de la dîme du frère, lui dit, peut-être que tu n'as pas assez fait ce qu'il fallait, peut-être que, es-tu soumise? Il la renvoie à son épouse, à son mari du moins. Les sévices continuent tellement qu'elle se rapproche du responsable du ministère de la famille à la fédération, parce que peut-être qu'il m'écoutera. Et ce frère de dire, je comprends, mais tu sais, c'est compliqué parce que ton mari, il est de renommée nationale ici. On ne peut pas, mais il est dans toutes les confréries de l'église. Il est bien représenté, et puis c'est un homme charmant. Est-ce que tu as fait tout ce qu'il fallait? Elle a eu la chance, cette sœur, de croiser la route d'un pasteur consciencieux qui lui a dit, « Ma sœur, si tu restes, tu perdras la vie. Prépare tes affaires en cachette et on va organiser les choses pour que tu fuis. » Effectivement, elle était tellement remplie de bleu, ses enfants étaient tellement massacrés, qu'un soir, alors que son mari avait été dans ses beuveries, elle a pu fuir. Une famille adventiste a pu la récupérer et c'est ainsi qu'elle a atterri en métropole. Je ne vous dirai pas d'où vient cette sœur. Et c'est ainsi qu'elle a réussi à se reconstruire. Après quelque temps, elle est retournée au pays. Son mari, toujours dans toutes les confréries de l'Église, bien évidemment, qui l'en sortira, retirera du moins. Eh bien, cette femme, après quelque temps, son mari n'étant pas inquiété, il a refait plus ou moins sa vie, hein, sans mariage, bien sûr, parce qu'on attend que l'autre se marie avant pour ne pas être dans le péché. On se souvient. Eh bien, cette femme accepte finalement de laisser son cœur reconquérir par un autre homme, un chrétien, un adventiste, qui accepte de l'épouser. Et pour la petite histoire, à peine qu'elle a évoqué cela à l'église, que des mesures disciplinaires ont été prises vis-à-vis d'elle, elle se retrouvait bannie de l'église, radiée. Et cet homme qui était son mari, qui la battait, il y avait des preuves, un jugement était mis en place pour pouvoir essayer de lui donner gain de cause. Cet homme continue à fonctionner comme si de rien n'était. Vous savez, certaines fois, nous sommes ces Sarai, malheureusement, qui, de par notre attitude, chassons loin de Dieu, des Agars. Le récit d'Agar semble nous suggérer que l'identité d'enfant de Dieu ne réside pas toujours dans le groupe, dans la culture, dans la masse indifférenciée, dans le cadre social, dans l'Église. Pas toujours, j'insiste. Faire Église ne signifie pas se perdre dans le dictat des doctrines, dans une uniformité adventiste sans réflexion. Faire Église, c'est préférer l'unité dans l'humanité incarnée puis sauvée par Christ. Faire Église, c'est regarder celui qui est à côté de moi, qui ne me ressemble pas forcément, qui n'a pas mon histoire de vie, qui n'a peut-être pas toutes mes situations difficiles ou mes expériences troublantes ou traumatisantes, mais qui pourtant me regarde et avec bienveillance qui m'accueille. Vous savez, Paul va dire dans Romains 8, versets 38 à 39, « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, aucun membre d'église mal intentionné ne pourra, ne devra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et c'est parce que je crois en vous, Église de Genève, je sais que vous êtes un lieu d'accueil pour tous les peuples, un endroit où l'être humain tel qu'il est accepté, soutenu, sans préjugés, que je me permets de partager avec vous ce récit. Et puis Agar, du moins, est une femme. Ou plutôt, Agar n'est qu'une femme. Pourquoi je dis cela? Eh bien, un jour, j'ai rencontré un frère charmant, très charmant, très très charmant, j'insiste sur le train, vous avez compris, étudiant en théologie comme moi, appelé par Dieu, semble-t-il, comme moi. Un jour, il m'a regardé, il m'a dit, pourquoi étudies-tu la théologie? Pourquoi Dieu parlerait-il à travers toi? Tu n'es qu'une femme. Je ne parle pas d'il y a 50 ans. Le récit donc d'Agar nous rapporte, certes, elle est une avant-gardiste dans bien des domaines. Elle est la première mère porteuse de l'histoire. Bénéficiant d'une PMA, j'ai envie de dire, médicalement assistée par Sarai, son médecin, ou pardon, sa maîtresse. Elle va être également une avant-gardiste parce que Sarai va non seulement l'utiliser comme la bonne à tout faire, mais également comme l'utérus à prendre. Et puis, avant-gardiste parce qu'elle est femme et que les femmes ne sont bonnes qu'à être engrossées. À son séparé, on se souvient de la loi de l'Ancien Testament qui voulait que l'homme remette une lettre de divorce à son épouse et s'en débarrasse. Peut-être que le repas était trop salé ce jour-là, on n'en sait rien. Mais c'est seulement récemment que la femme a enfin eu le droit, si on peut appeler ça un droit, de sauver sa peau. De sauver sa vie. Alors elle est chassée dans le désert, notre Agar, cette servante, cette femme, cette étrangère, parce qu'elle a été tellement maltraitée alors qu'elle était en grossesse, qu'elle a préféré fuir dans le désert. Alors, si vous lisez cette histoire de manière banale, comme on le fait souvent, hein, on ne pourrait pas comprendre la réalité de la situation d'Agar. Aujourd'hui, on appellerait ça de la violence domestique. Pourquoi pas? C'est répréhensible et il suffit que la loi intervienne et l'affaire est réglée. Mais du temps d'Agar, elle n'était même pas renvoyée chez son père comme les femmes israéliennes parce qu'elle est étrangère. Le droit de la femme, elle ne connaît pas. Elle est renvoyée dans le désert. Pour y mourir, pourquoi pas? Et là, dans le désert, engrossée jusqu'au cou, j'ai envie de dire, elle s'effondre émotionnellement près d'une source. Ce qui est beau avec le texte biblique, c'est que nos histoires ne s'arrêtent pas là. Nous ne sommes pas juste un ramassis d'expériences douloureuses ou heureuses, tant mieux pour nous. Mais Dieu est le Dieu qui intervient. Dieu intervient au chapitre 16. Il apparaît à Agar dans cette source. Il lui fait une promesse sans limite de temps pour elle et pour son fils Ahmètre. Tu, Ahmètre, tu l'appelleras Ishmaël. Mon Dieu entend, car le Seigneur a entendu ton cri de détresse. Là, dans le désert, notre Agar, qui n'est qu'une femme, a réussi à incliner le cœur de Dieu vers sa situation. Femme, tu as un pouvoir, ne l'oublie jamais. Les larmes sont un langage, nous dit le psalmiste dans Psaume 6, que Dieu comprend et qu'il recueille dans son outre. Et Dieu fait d'elle, qui était objet, un outil nécessaire. Il fait d'elle un sujet. Dieu la voit, Dieu l'entend, Dieu lui parle, Dieu prophétise sur sa vie. Agar, esclave de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Autrement dit, Agar, es-tu consciente de qui tu es? Et te trouves-tu sur le chemin de ta destinée? Es-tu consciente que ton histoire d'étrangère, ton statut social d'esclave, ta situation de femme maltraitée ne sont pas passées inaperçues à mon entendement? Agar, toi qui m'écoutes en ce matin, sais-tu que tous les éléments, les événements, les circonstances, les dysfonctionnements de ta vie, ton histoire, l'histoire de tes parents, de tes grands-parents, tous sont des éléments que Dieu utilise pour te construire et pour t'emmener vers une destinée heureuse. Agar, elle n'est qu'une femme et pourtant, elle est le seul personnage biblique à donner un nom à Dieu. Le seul personnage à le nommer. On se rappelle, c'est Dieu qui se nomme. Je suis. Là, il permet à une femme de le nommer. Tu es El Roi, dira-t-elle, le Dieu qui me voit. Elle est également la seule femme à recevoir la bénédiction destinée au patriarche. Le Seigneur, au verset 10, te donnera des descendants en si grand nombre qu'on ne pourra pas les compter. Au chapitre 16, Agar devint une matriarche, vous savez, d'esclave à matriarche. Car Ishmaël, Dieu m'entend, devint le père de 12 princes. Chapitre 25, verset 12. Tout comme Isaac, le fils de la promesse. L'histoire d'Agar me parle beaucoup, car elle m'enseigne, et vous aussi, j'imagine. Il n'y a rien qui puisse nous arriver. Nulle part où nous pourrions aller. Il n'y a rien qui puisse faire que nous puissions nous soustraire au regard de notre Créateur. Le psalmiste dit dans Psaume 139, versets 7 à 12, « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends au séjour des morts, t'y voilà. » Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Amen. Si je dis au moins, peut-être que les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscurité pour toi. La nuit brille comme le jour pour notre Seigneur et les ténèbres comme la lumière. Nous avons un Dieu formidable. Alors je vais conclure, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Merci pour votre patience. Agar, toi qui m'écoutes en ce matin, quel que soit ton genre, je ne suis pas dans un problème de femme, d'homme. Tu es homme, tu es femme, mais tu peux être un Agar. Quelles que soient tes origines, tu es un autochtone ou bien tu es un étranger. Tes pulsions, du moins, tu as des choses que tu tiens, des mauvais comportements, des penchants. Tes limites, peut-être. Tes faiblesses. Ton bagage émotionnel. Tes dysfonctionnements. Ah, j'en ai beaucoup, hein. J'imagine que nous tous dans cette salle. Eh bien, sache que Dieu veut faire de toi un créateur de nations, un générateur de vie, un porteur de fruits. L'Éternel appauvrit et il enrichit. dit 1 Samuel 2, 7 à 8. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Ta condition n'est pas un frein à ta destinée. Au contraire, souviens-toi que le Seigneur garde les yeux sur les fidèles, prêts à entendre leur appel. Dès que les fidèles appellent au secours, le Seigneur entend et il les délivre de toutes leurs angoisses. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le fidèle endure de nombreux maux, mais le Seigneur l'en délivre tous, de tous. Et je vais terminer en disant que Agar, elle m'impressionne tout simplement parce qu'elle est cet antétype ou ce prototype de la déclaration de Paul dans Galates 3, versets 28 à 29, lorsqu'il dit « Il n'importe donc plus, dans la version français courant, que l'on soit juif ou non-juif, homme ou femme, esclave ou libre. En effet, vous êtes tous dans la communion avec Jésus-Christ. Si vous appartenez au Christ, vous êtes les descendants d'Abraham et vous recevrez l'héritage que Dieu a promis. Agar, toi qui m'écoutes en ce matin, Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta destinée. Alors, mets-toi en marche. Amen.